Direct en jeu, la radio insolite au Café Lumière, juste en face du hangar du premier film. Ce matin, je suis plus détendu puisque tu es en face de moi. J'ai cru que j'allais devoir parler brésilien ou anglais parce que tu t'appelles
Claudia Colao.
Moi, je sais pas pourquoi tout de suite je me suis dit elle est brésilienne. Elle est.
Mais c'est faux. Hein.
Bourg-en-Bresse, c'est à côté.
Oui, c'est ça, à une heure d'ici. Oui. Latino-Bressane, quoi, on va dire.
Latino-Bressane, beaucoup. Tu m'as fait retomber en enfance.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que je crois, sauf erreur, que tu as un métier, et en particulier, comment dire, tu m'as fait retomber à l'époque où j'étais au lycée Carnot à Paris, et à l'époque où j'allais à la Cinémathèque, rue Jacques-Bingen, et où j'ai vu le film dont tu as fait un documentaire. Alors déjà, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ?
Je m'appelle Claudia Colao, je pense que je suis réalisatrice documentariste de patrimoine, donc spécialisée dans le cinéma. Et voilà, je suis là pour présenter la deuxième saison de Europa Maudit pour OCS. Voilà, et plus particulièrement Métropolis, qui est un documentaire consacré à Métropolis sur de Fritz Lang et Théa von Arbour, voilà, et les méandres de ce chef-d'œuvre ultra connu et méconnu, parce qu'il y a plein d'histoires cachées à l'intérieur. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce métier ?
Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans ce métier ? Mes études, je pense, parce que j'ai des études d'histoire du cinéma. J'ai travaillé 6 ans à la fac, enfin, je fais des mémoires et tout ça. Et puis aussi, j'ai fait des rencontres avec des femmes réalisatrices, productrices, ce qui n'était pas commun quand j'avais 20 ans. Voilà, je travaillais avec Agnès Varda, j'étais sa chargée de production. Après, j'étais l'assistante de Tony Marshall. Et voilà, et donc en fait ce sont des femmes pour qui c'était normal de produire ce qu'on faisait, le fabriquer et tout ça. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis mis à réaliser des films tout en travaillant avec elles. Et voilà, et puis un jour j'ai écrit un film il y a 5 ans, 6 ans, 2015, c'était, ouais 7 ans quand même. Et voilà, qui s'appelait Le Mystère Greven et qui a cartonné à Lumière. Et voilà, et depuis je fais ça, j'en réalise pas mal par an. Et ça fait 2 ans que j'ai une série sur OCS. Et voilà, et là j'ai une nouvelle saison qui arrive, mais consacrée au remake. Et peut-être une troisième, enfin bon, à voir. Voilà, donc voilà comment ça s'est décanté.
Tu parlais de documentaire, de film de patrimoine. C'est vraiment quelque chose de très, très pointu.
Oui, documentaire de patrimoine, c'est en gros, on met en avant une partie de l'histoire mondiale de France, ou voilà, à travers un film, et ou le film, enfin ça dépend, mais moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est parler du cinéma pour parler de quand la grande histoire se confronte à la petite histoire étant en général celle du réalisateur, de l'auteur, ou même du genre du film, et qui se confronte à la grande histoire. En fait, un film et son contexte, c'est ça. Je mesure toujours le contexte et l'humain, quoi. C'est ce que je cherche, c'est ce qui m'intéresse. Un énième film sur Métropolis, c'était pas la peine, en fait. Il y a tellement de choses qui ont été faites, des bouquins, des machins, plein de choses. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les personnes et les contradictions des personnes dans la fabrication du film. Et puis ensuite, je spoil pas le documentaire, mais dans la restauration du film. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'humains, il y a des égos, il y a des coïncidences aussi. Enfin voilà, je vous invite à aller voir le film pour comprendre tout ça. Ouais.
Là, tu t'es quand même attaqué à ce que j'appelle un monument du cinéma.
Oui, alors avec la production, la monteuse, toute mon équipe, le Métropolis, on l'a laissé pour la fin parce qu'on savait que c'était c'est une cathédrale, quoi, en fait. C'est comme si on faisait un documentaire sur Notre-Dame, c'est exactement ça. Tout le monde a son point de vue. Tout le monde l'a déjà vu. Tout le monde a étudié à l'école. Donc, c'est... Tout le monde a déjà vu, tout le monde a vu le robot, tout le monde. Donc le challenge, c'était de raconter ça en mettant tout, parce qu'on ne peut pas omettre les versions, les étapes, la guerre, la UFA, enfin tout ça, on ne peut pas. Mais à chaque fois le contrebalancer avec quelque chose d'un peu plus nouveau. Et voilà. Et alors le grand coup de bol dans ce film, c'est qu'on a eu tout le monde. C'est-à-dire qu'on a eu tous les historiens vivants, ils sont tous là. Et les gens qui ont retrouvé Métropolis en 2009, Donc ils étaient en Argentine et confinés, mais on les a eus en interview. Donc voilà, on a eu tous ces gens finalement qui travaillent à la, qui ont travaillé sur la cathédrale. En fait, c'est ça, c'est comme une restauration de Notre-Dame, c'est la même. C'est vraiment pareil.
C'est un film. Alors, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un film qui est très noir.
C'est un film confiné, hein, quand même. C'est, toute la collection est confinée, donc il y a quand même un truc très mélancolique dans l'histoire. Mais c'est un film noir, parce qu'en fait, ça part comme une super production hollywoodienne. Et en fait, la grande histoire se mesure au film, qui est un mastodonte aussi. Et en fait, elle broie quasiment tout, elle broie tous les protagonistes de près ou de loin, hein, en fait. Et puis, il y a un autre truc, c'est que Metropolis, c'est une matière vivante, en fait. Le film vit au-delà de sa sortie, de son histoire. Il est encore vivant. Moi, je me rappelle très bien, en 2009, j'ai eu ma fille en 2009, et j'étais à la clinique, et quelqu'un m'a amené un exemplaire du Monde, et il y avait marqué « Des Argentins retrouvent Metropolis ». Et j'étais « Quoi ?» Et en fait, je me suis rappelée de ça. Après, il fallait remonter le fil et savoir pourquoi, comment le film s'était retrouvé en 2009 en Argentine, comment ça avait été retrouvé, par qui, comment ça avait été réinjecté. Ces images ont été réinjectées dans le film. Par qui, comment les Allemands ont accepté de restaurer les images, des images argentines, hein, du coup. Comment ça s'est passé pour faire une version encore plus longue d'un quart d'heure, enfin, et on comprend mieux le film en plus. C'est ça aussi le truc. Du coup, on comprend mieux le film qu'on a tous vu à l'école, en fait.
Question très basique, c'est facile de faire un documentaire?
Est-ce que c'est facile? Je sais pas. Non, je pense que je suis très 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 bien entourée. C'est la même équipe qui travaille avec moi depuis 13 films. Donc voilà, on y va pas à pas. On est tous là, et puis surtout on a un truc, c'est que moi, la seule chose que je ne veux pas, c'est être plat. En fait, c'est ça, c'est mon truc. C'est à chaque fois, je te demande, est-ce qu'on est plat, est-ce qu'on est superficiel, est-ce qu'on est didactique. Et s'ils répondent oui, on repart travailler, en fait. Si c'est trop, on repart. Après, des fois, faut être très didactique. Je pense dans le film l'effet Chuftan. Avec les maquettes, il a fallu qu'on fasse un dessin, parce que sinon on ne comprenait pas. Et voilà, mais en fait, on se challenge les uns les autres à chaque fois. Enfin, à chaque fois, que ce soit au montage, au son, à la musique, au graphisme, à chaque fois, on essaye de trouver quelque chose de nouveau.
On est en face du hangar du premier film, on est sur le Festival Lumière. Toujours les questions basiques, que représente le Festival Lumière pour toi ?
Moi, le Festival Lumière, c'est une grosse histoire, parce qu'en 2015, j'ai fait le Mystère Greven, un film sur la Continentale, Mystère Greven, et puis j'avais pas tourné depuis 5 ans. Et c'était le premier film du producteur avec qui je travaille jusqu'à maintenant. Et en fait, je suis arrivée à Lumière et j'avais été accueillie par Tavernier, qui était dans le film. Et Jean, il m'avait dit c'est complet. Il faut faire une deuxième projection. Et là, d'affilée. Et là je me suis dit, c'est passé un truc. Et j'ai fait un dîner, et le soir est passée une dépêche de Télérama qui disait, de Guillemette Audicino, qui disait, il faut absolument voir ce film. Voilà. Et là, pour moi, c'est là que ça a démarré, quoi. Ça a redémarré, quoi. Donc Lumière, c'est... Ouais, je dois beaucoup à Lumière. Hein, ouais. Et je me rappelle très bien appeler le producteur en lui disant, tu viens tout de suite, tu prends un train et tu viens tout de suite. 2 heures après, il était là, quoi. C'est tout a commencé là. Ah ouais, clairement.
Bon, notre prix Lumière 2022, c'est Tim Burton. Je crois que tu l'as croisé hier soir.
Oui, je l'ai croisé, j'étais très impressionnée. Et toujours pareil, il bouge pas. Voilà, il est là, il est ravi, je crois qu'il est très ému d'être là, en fait. Ah ouais. Et puis j'ai pas encore vu son dernier film, j'ai pas encore regardé. Mais j'ai interviewé son scénariste en juillet, donc voilà.
Ton actualité future ?
Justement, l'interview du scénariste de Tim Burton, c'est pour une nouvelle collection, 4x52 minutes sur les remakes et les rapports qu'on entretient, que Hollywood entretient avec l'Europe. Et la réécriture des remakes, comment le remake est devenu un genre à part entière, pourquoi, comment. Et donc, voilà, j'ai des scénaristes, les scénaristes de Batman, Paul Schrader, enfin, voilà, scénaristes de Steve Martin. Voilà, j'ai quelques qui racontent comment, pourquoi on fait un remake, comment on travaille un remake et quelle est la place du public vis-à-vis d'une histoire qu'on connaît déjà. Voilà. Et normalement, je rends ça début 2023. Enfin, si tout va bien.
Oui, si tout va bien, on est d'accord.
Bon, oui. Je respecte mes délais, je vais essayer.
Je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes et puis plein de bonnes choses.
Ben, à vous aussi, plein de bonnes choses, bonne continuation.